VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. L'espoir au Soudan après la signature d'un accord entre le pouvoir et la contestation. Nouvelle manifestation en Algérie malgré la proposition de sortie de crise du président par intérim. En Côte d'Ivoire, l'opposition rejette la nouvelle commission électorale. La Tunisie interdit le niqab dans les institutions publiques. Sans oublier bien sûr le journal de la CAN en page sport. Mais tout d'abord, le journal. Ce soir dans l'actualité africaine, au Soudan, le conseil militaire au pouvoir et les meneurs du mouvement de protestation ont convenu de mettre en place une présidence alternée pour diriger la transition pendant 3 ans. Cet accord a été accueilli avec espoir dans les rues de Khartoum. Eric Manirakiza.
Des centaines de personnes sont descendues dans les rues, laissant éclater leur joie et clamant que le sang des victimes de la répression des manifestations n'a pas coulé pour rien. Les militaires et les contestataires se sont mis d'accord sur l'instauration d'un conseil souverain. Selon un leader de la contestation, Ahmed Rabi, cette instance sera composée de 5 militaires et de 6 civils. Les militaires vont d'abord présider la transition pendant 21 mois, puis les civils prendront la relève durant 18 mois pour une durée totale de 3 ans et 3 mois. C'était le principal point de discorde qui avait entraîné la suspension des discussions en mai. D'après l'Association des professionnels soudanais, acteur majeur de la contestation, l'accord final doit être prêt pour signature dès lundi. Nous avons traversé une phase difficile. Nous avons souvent eu le sentiment que notre révolution avait été détournée. Mais aujourd'hui, nous pouvons célébrer notre victoire. C'est féliciter Mohamed Hussein.
En République démocratique du Congo, la barre des 1600 décès dus à l'épidémie d'Ebola a été franchie hier jeudi. Une nouvelle victime a été confirmée à Ariwara dans l'Ituri, une nouvelle zone touchée par Ebola, frontalière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. En Centrafrique, plus de 160 combattants d'un groupe armé signataire de l'accord de paix ont déposé leurs armes dans le village de Beloko, dans l'ouest du pays, non loin de la frontière avec le Cameroun. C'est la seconde opération de désarmement menée depuis la signature du projet DDR, désarmement, démobilisation et réintégration, en décembre 2018. Au Nigeria, au moins 18 personnes ont été tuées dans des attaques lancées par des bandits armés contre 4 villages dans le nord du pays, où les raids menés pour kidnapper des villageois et voler du bétail se multiplient. Une ONG de défense des droits humains a été dissoute par les autorités en Guinée équatoriale. Le ministre de la fonction publique, Faustino Ndong Ezono Eyang, a justifié sa décision en affirmant que le Centre des études et initiatives pour le développement avait eu des agissements politiques ces dernières années. Le CEID avait déjà été suspendu en mars 2016 pour violation de l'ordre public à la suite de l'organisation d'un forum des jeunes en janvier 2016. En Algérie, l'important dispositif policier déployé dans les rues d'Alger n'a pas empêché des milliers d'Algériens de manifester ce vendredi. Ceci alors que le pays célèbre le 57e anniversaire de son indépendance. Nous faisons le point avec Abdourahmane Dia.
Au cri de « Partez, libérez l'Algérie », les manifestants dans la capitale ont forcé un cordon de policiers. Des témoins ont rapporté une dizaine d'arrestations. Chantant des hymnes à la gloire des martyrs de la guerre d'indépendance et agitant le drapeau national, les manifestants ont répondu à l'appel lancé par diverses personnalités. Depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression de la rue et de l'armée, le mouvement de contestation refuse que ce qu'il appelle le système en place organise la présidentielle et réclame au préalable le départ de tous les anciens soutiens de M. Bouteflika. Mercredi, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé la création d'une instance de dialogue pour organiser une présidentielle. Il a promis que l'État et l'armée ne s'y impliqueraient pas, mais les manifestants ont rejeté cette nouvelle proposition. Un premier appel au dialogue lancé début juin par M. Ben Salah et limité à la classe politique avait aussi reçu une fin de non-recevoir de la contestation.
En Tunisie, le niqab, voile intégrale couvrant le visage à l'exception des yeux, sera interdit dans les institutions publiques. Selon le chef du gouvernement tunisien, cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Raïssa Gironda.
Le premier ministre tunisien, Youssef Chahed, a décidé vendredi d'interdire l'accès aux administrations et institutions publiques à toute personne ayant le visage caché. Une décision qui intervient dans un climat sécuritaire tendu, à la suite notamment d'un double attentat suicide perpétré jeudi dernier à Tunis. Revendiqué par le groupe État islamique, l'attentat a fait 2 morts et 7 blessés. En 2014, le ministère de l'Intérieur avait autorisé la police à procéder à un contrôle renforcé des personnes portant le niqab. Un appel motivé par le danger terroriste persistant, plusieurs personnes s'étant déguisées sous un niqab pour fuir la justice. Cette tenue n'était pas tolérée sous le régime déchu de Ben Ali, qui réprimait toutes les formes d'islamisme, mais elle a connu un essor certain depuis la révolution de 2011. Le niqab a relancé le débat entre militants politiques séculiers et islamistes notamment.
Mobilisation en Mauritanie pour la libération d'un journaliste. Plusieurs organisations, dont Reporters sans frontières, ont appelé aujourd'hui à la libération d'Ahmed Ould Ouvedeyaa, journaliste à la télévision privée Al Morabitoun. Il a été interpellé mercredi dernier. Un rassemblement pour sa libération a réuni une trentaine de journalistes devant le ministère de la Communication hier. En Afrique du Sud, un ministre proche du président Cyril Ramaphosa est à nouveau dans la tourmente. Pravin Gordhan a été accusé par la médiatrice de la République d'avoir violé la Constitution en cachant une rencontre avec la fratrie Gupta au centre d'un scandale de corruption. Le ministre Gordhan a accusé la médiatrice d'être, selon ses termes, manifestement partiale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, la tension ne cesse de monter entre les pays occidentaux et l'Iran. Téhéran a sommé ce vendredi la Grande-Bretagne de restituer son pétrolier arraisonné au large de Gibraltar. Une réunion d'urgence de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le programme nucléaire iranien est prévue la semaine prochaine. Les précisions de Lionel Gaïma.
À la demande de l'ambassadrice américaine auprès des organisations internationales, Jackie Wolcott, cette réunion extraordinaire aura lieu le 10 juillet à Vienne. Les participants feront le point sur l'accord nucléaire iranien suite à la décision de l'Iran de franchir la limite imposée en 2015 à son stock d'uranium faiblement enrichi. L'Iran exige pour sa part que la Grande-Bretagne libère immédiatement son pétrolier saisi jeudi au large de Gibraltar. L'ambassadeur britannique en Iran, Rob Macker, a été convoqué ce vendredi au ministère iranien des Affaires étrangères. Les autorités iraniennes lui ont signifié que si Londres ne revient pas sur sa décision, Téhéran n'aura pas d'autre choix que de saisir un pétrolier britannique en représailles. Le navire iranien intercepté près de Gibraltar était soupçonné de transporter du pétrole brut à destination de la Syrie en violation des sanctions européennes. Pour l'Iran, l'arraisonnement a eu lieu dans les eaux internationales et équivaut à un acte de banditisme maritime.
Le président américain Donald Trump a exhorté aujourd'hui la Banque centrale à baisser les taux d'intérêt pour stimuler davantage la croissance, bien que les données de l'emploi du mois de juin témoignent de la solidité de l'économie américaine. Depuis des mois, le président républicain reproche à la Fed de brider l'expansion économique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé aujourd'hui, vendredi, à un cessez-le-feu urgent en Libye dans un communiqué soutenu par les États-Unis et qui condamne l'attaque mardi d'un camp de migrants près de Tripoli. Le raid aérien imputé par le gouvernement d'Union nationale de Fayez el-Sarraj aux forces du maréchal Khalifa Haftar a fait 56 morts et 130 blessés. Crise migratoire en Méditerranée, l'avocat de Carola Rackete, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch, a annoncé que sa cliente allait porter plainte pour diffamation contre Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Le ministre, pendant toute la durée de la crise avec les migrants, le Premier ministre a multiplié les déclarations et les tweets furieux, insultant la capitaine et la décrivant comme une criminelle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Tout de suite, le journal de la CAN présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. L'aventure continue pour le Bénin. Les écureuils ont tenu jusqu'au bout dans leur premier match de huitième de finale en renversant les Lions de l'Atlas marocain. Au tir au but, écureuils et Lions de l'Atlas étaient à égalité de 1-1. À l'issue des prolongations, les Béninois ont ouvert le score par Moïse Adeleou à la 53e. Puis les Marocains ont égalisé par Youssef N. Nesri à la 75e. Hakim Ziyech a raté un pénalty dans le temps additionnel pour le Maroc. À la fin de la prolongation, le Bénin est sorti victorieux des tirs au but 4-1. Les Béninois filent en quart pour la première fois de leur histoire en n'ayant toujours pas gagné un match. Le week-end s'annonce intéressant avec de gros matchs en vue. Dimanche à 16h, la surprenante équipe malgache tentera de poursuivre son rêve face à une RDC, ressuscitée des cendres des 4 meilleurs 3e. Puis à 19h, la Guinée n'aura pas droit à l'erreur devant la magnifique formation algérienne. Mission compliquée demain samedi à 19h temps universel pour l'Afrique du Sud devant le pays hôte, l'Égypte. Mais bien avant, le premier choc de ces huitièmes opposera le Nigeria au Cameroun. C'est la revanche de la finale de la CAN 2000 où le Cameroun avait battu le Nigeria sur ses terres lors d'une crispante séance de tirs au but. Les Super Eagles veulent mieux faire cette fois-ci.
Nous savons que maintenant nous devons gagner ce match, ça peut durer 120 minutes. Nous sommes prêts pour cela car je crois que la fraîcheur physique est très importante dans ce tournoi. Maintenant sur les blessures, nous avons de bonnes nouvelles de Collins. Il peut jouer, je ne sais pas encore s'il peut commencer ou pas, mais il sera sur le banc dans le groupe 1. Nous avons seulement une blessure de notre capitaine Obi Mikel qui ne sera pas en mesure de jouer ce match demain.
To play this match tomorrow. Guenotro, sélectionneur du Nigeria. Les Lions indomptables se disent aussi prêts.
Nous respecterons le Nigeria parce que le Nigeria peut faire mieux que ce qu'il a montré. Le Nigeria a fait une bonne Coupe du Monde, je l'ai vu. Il a de bons joueurs, des individualités, une équipe qui sait qu'elle va faire face à une autre aussi solide. Nous nous attendons donc à un Nigeria plus fort, le meilleur Nigeria. C'est dans cet esprit que nous allons aborder le match. Nous n'avons aucun doute que nous sommes prêts pour cela.
Clarence Seedorf, sélectionneur du Cameroun. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué nous parle de ses rendez-vous du week-end et ne manque pas de conseils d'usage. C'est le coup de sifflet.
Avec le début des matchs à élimination directe des huitièmes de finale ce week-end, la Coupe des Nations entre dans sa phase décisive durant laquelle les supporters des différentes équipes vont passer par tous les états et toutes les couleurs. À la vue du tableau des combinaisons obtenues, force est de reconnaître que certains enseignements se dégagent déjà. Tout d'abord, sur le plan statistique, les pays présents sont les meilleurs puisqu'ils ont gagné 28 des 31 trophées mis en jeu depuis la création de la compétition en 1957 et seuls la Zambie victorieuse en 2012 et deux antiques vainqueurs, l'Éthiopie et le Soudan en 68-70 sont absents. L'autre constat est relatif à l'équilibre des parties du tableau des rencontres proposées. On y constate que la première, avec 17 trophées contre 11 à la seconde, pèse plus lourd. La faute est au Cameroun, au Sénégal et au Nigeria qui se sont contentés des deuxièmes places de poule, mais aussi à Madagascar pour son courageux crime de lèse-majesté face au Nigeria. Conséquence, dès les huitièmes de finale, on retrouve déjà un remake des finales passées, avec Ghana-Tunisie de 65, Égypte-Afrique du Sud de 98 et surtout 3 Cameroun-Nigeria en 84, 88 et 2000. Lorsqu'on y ajoute deux derbys régionaux traditionnels, de l'envergure de Cameroun-Nigeria bien sûr et de Mali-Côte d'Ivoire, avec la passion et les colibets qui les accompagnent souvent, alors la coupe est pleine. Pour toutes ces émotions en perspective ce week-end, il s'avère opportun de rappeler les conseils d'usage. Que les grignoteurs se gardent de manger trop salé ou trop sucré. Que les buveurs consomment avec modération. Libérer le canapé et la télécommande de temps en temps pour les dames et les plus petits. Avoir le numéro de téléphone de son cardiologue à portée de main. Mais pourtant, user et abuser de sa consommation d'images de photos.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Le lancement de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, aura lieu dimanche à Niamey en marge d'un sommet de l'Union africaine. Ce marché, dont le Nigeria va rejoindre demain samedi, devrait être actif à partir du 1er juillet 2020. Est-ce un calendrier réaliste? Eric Manirakiza a joint à Dakar le spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Kane.
Pas totalement réaliste. D'abord, il y a beaucoup de choses à régler. Je ne parle même pas des questions d'infrastructure, des questions de logistique, des questions d'adoption d'autres traités qui sont nécessaires à la mise en œuvre efficace du document. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui doivent être mis en place pour que la ZLEC soit vraiment effective. Par exemple, un système de paiement et de règlement des paiements qui n'est pas totalement en place, et ça prend beaucoup de temps. Les mécanismes qui doivent être mis en place par Internet pour la surveillance de l'application du traité par les États parties, qui connaît le statut d'Internet sur le continent, donc ça va prendre énormément de temps. Mais il y a aussi tout ce qui concerne la mise en place de l'observatoire, parce que une chose est de commencer, mais une autre chose est aussi de mettre en place un système qui va vraiment évaluer les progrès, les retards, les difficultés. Et tout cela n'est même pas encore mis en place. Ce sont des questions qui vont faire justement l'objet de discussions lors du sommet de Niamey. Et donc, vous voyez que ça va prendre encore au moins, disons, de manière réaliste, peut-être dans 5 ans, que la ZLEC sera vraiment effective entre les pays qui l'auront ratifiée à ce moment-là.
Il y a des inquiétudes sur la complémentarité des économies africaines qui risquent de mettre en péril des petits producteurs agricoles et industriels. Comment lever cette situation?
Bon, vous savez que il y a des questions qui sont essentiel pour que ce système qui est que les États africains ont conçu marche, c'est la règle du produit d'origine. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'accord sur ce que c'est le produit d'origine. Vous savez, les communautés économiques régionales qui existent, il y en a 8. Chacune d'elles a déjà développé, en tout cas dépendant de son progrès dans le processus d'intégration, a mis en place des mécanismes pour décider des règles d'origine. Et par exemple, les règles d'origine en Afrique de l'Est existent. En Afrique de l'Ouest, il y a des règles d'origine dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'UEMOA. Donc il faut qu'on arrive au moins à s'entendre à travers tous ces mécanismes-là sur ce qui peut constituer. Parce que c'est à partir de ce moment qu'on pourra dire que ça va avoir un impact positif ou un impact négatif sur aussi bien l'agriculture et sur les autres aspects de l'économie de nos pays. Tant que ces points-là ne sont pas définitivement réglés, je pense qu'on ne peut que faire de la conjecture.
Ibrahima Kane, spécialiste de l'Union africaine, il était joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En Côte d'Ivoire, un projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale est contesté par une partie de l'opposition et de la société civile. En 2016, la Cour africaine des droits de l'homme avait appelé à plus de parité. Jointe par Nathalie Barge, Salimata Porquet, présidente de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, revient sur les points d'accord et de désaccord.
Finalement, tout le monde était d'accord qu'il y ait le représentant de la présidence et le représentant du ministre de l'Intérieur. Les points de désaccord, certains groupements politiques ont refusé que le représentant de la présidence et le représentant du ministère de l'Intérieur aient voix délibérative. Et il y a un autre point qui était un point d'accord commun. Les partis de l'opposition ont décidé que cela ne puisse pas être candidat à la présidence de la tête de la CEI. Ça, c'était également un point d'accord. Puis il y a un point de désaccord. Lorsqu'il y a eu la publication du résultat des travaux que nous avons eus au niveau de la CEI, on a mis dedans que le Conseil national des droits de l'homme devient société civile et va prendre une part, parce qu'il est prévu 6 places pour la société civile. Donc le Conseil national des droits de l'homme, qui est déjà une institution.
Ce qui fait que la société civile n'aurait plus que
3 membres, parce qu'il y a un membre pour le barreau, un membre pour les avocats et un membre pour la commission nationale, le Conseil national des droits de l'homme. Et on met le Conseil national des droits de l'homme dans la société civile. Donc je pense que nous allons faire une revendication.
Je sais que cela est déjà compliqué, visiblement, d'avoir une place pour tout le monde, mais c'est la question que peut-être certains se posent, et la présence des femmes.
La présence des femmes est exigée. Nous avons exigé le quota au sein de la commission électorale indépendante. Et il y a même un parti qui a demandé à ce que la présidence de la commission soit confiée à une femme. De ce côté, tout le monde est d'accord. Toutes les organisations sont d'accord, c'est-à-dire aussi bien les politiques que la société civile. Tout le monde est d'accord qu'il y ait un équilibre du genre. Les partis du pouvoir auront 3 personnes et les partis de l'opposition 3 personnes. Mais qu'au moins, dans ces 3 personnes, qu'il y ait soit 1 ou 2 femmes de chaque parti. Et c'est pareil pour la société civile. Nous ferons de telle sorte qu'il y ait au moins 2 ou 3 femmes.
Salimata Porquet, membre du comité de coordination des femmes médiatrices de l'Union africaine.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed vient d'émettre un ordre interdisant aux personnes portant le niqab l'accès aux administrations publiques, invoquant des raisons de sécurité. Le débat sur ce voile couvrant tout le visage, à l'exception des yeux, se trouve relancé dans un climat sécuritaire tendu, notamment suite au double attentat suicide perpétré jeudi dernier à Tunis. Raïssa Girondin a joint, dans la capitale tunisienne, le journaliste et ancien rédacteur en chef du journal La Presse, Manouki Marouki.
La majorité des Tunisiens étaient contre cet habit distinctif d'un certain état d'esprit extrémiste. Parce que si on se fait même au texte sacré au Coran, mais il n'y a aucune indication de la nécessité ou de l'obligation de porter de tels habits.
C'est une tenue qui n'était pas tolérée sous le régime de l'ancien président Ben Ali.
C'est après le 14 janvier en 2011 que, au nom de la liberté et des droits de l'homme, et ce sont beaucoup plus les salafistes, les femmes de salafistes et les femmes qui ont porté le niqab. C'est le port intégral. Il couvre entièrement le corps. Même les yeux, on ne les voit pas puisqu'il y a comme un rideau devant. On ne voit absolument rien. On ne voit rien. Tout est couvert.
Quel type de problème le port de cette tenue peut engendrer?
Rien qu'au niveau de la vie sociale, au sein de l'administration. Quelqu'un qu'on ne voit pas, on ne voit pas le visage et qui vient demander un service, je ne sais pas moi, des papiers importants, mais alors que. Il y a même certaines femmes qui refusaient complètement de voiler leur visage pour authentifier réellement la personne par rapport au papier qu'elle présente.
Selon le chef du gouvernement tunisien, cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Mais une telle loi est-elle vraiment nécessaire?
Bien sûr, puisque aujourd'hui, heureusement qu'il commence à prendre conscience de la gravité d'un tel camouflage. Parce qu'il y a pas mal de terroristes qui se sont cachés. On avait ça à l'étranger, mais chez nous aussi, pour fuir les contrôles, pour fuir même les recherches policières, ils portent le niqab. C'est une mesure préventive pour préserver la société et le commun des mortels d'éventuelles opérations terroristes, tout simplement.
Interdire le port du niqab dans les institutions publiques, qu'est-ce que ça peut être perçu comme une atteinte à la liberté pour les femmes musulmanes?
La liberté, mais la liberté, elle n'est pas absolue. La liberté, elle s'arrête là où elle commence à nuire à la liberté des autres. Mais là, elle nuit pas à la liberté des autres, elle nuit à toute la société, parce que le risque est grand que par désespoir, c'est des gens qui sont prêts à tout.
Quelles conséquences de cette décision à l'intérieur du pays, notamment entre les militants politiques et les islamistes?
Rien. Ils ne sont pas nombreux, leur voix ne portera pas. Et je peux vous assurer que la majorité des Tunisiens sont beaucoup plus rassurés par une telle mesure. Et je peux même vous dire qu'en dehors du niqab, même le port du voile est devenu pour une grande partie des femmes tunisiennes, c'est un effet de mode.
C'était le journaliste Manouki Marouki, il était joint à Tunis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Revenons sur les célébrations du 4 juillet, la fête nationale célébrant l'indépendance des États-Unis, avec notamment des chars d'assaut exposés devant le Lincoln Memorial à Washington. Le président Donald Trump a incité les jeunes à intégrer l'armée américaine lors d'un discours prononcé hier à cette occasion. Ses adversaires lui ont reproché de s'être approprié la fête nationale traditionnellement apolitique. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec la professeure Marilyn Sefocle de l'université Howard à Washington.
Eh bien, il s'agit peut-être d'une inspiration venue de France, puisqu'il a visité donc la France le 14 juillet dernier, si je ne m'abuse, et donc il s'agissait donc le défilé militaire français. C'est un défilé vraiment extrêmement axé sur tout ce qu'il y a comme arsenal militaire, tanks, etc. C'est un défilé qui est vraiment extrêmement impressionnant. Et le président Trump se serait inspiré de la parade militaire française. Eh bien, ils ne veulent pas de défilé militaire parce que c'est simplement pas dans la tradition ou dans les goûts américains. En général, vous avez donc dans les défilés américains ou des associations ou des Native Americans, comme on dit ici, amérindiennes qui défilent, etc. Mais vous n'avez pas de tanks, de parades militaires. Ça rappelle aussi l'histoire américaine, parce que dans l'histoire américaine, justement, les Américains se débarrassaient du joug, si vous voulez, de l'Angleterre. Donc, ils se débarrassaient justement de l'emprise coloniale. Et donc, tout ça, ça a, si vous voulez, un relan de l'époque coloniale américaine.
Le président Trump s'est également exprimé sur les marches du Lincoln Memorial, rompant donc avec la tradition. Ses détracteurs démocrates craignaient un meeting de campagne partisan, environ un an et demi de l'élection présidentielle. Qu'en pensez-vous?
Oui, alors cela peut être interprété de la sorte. Quand un personnage politique américain s'adresse à la nation à partir du Lincoln Memorial, ça a un impact énorme sur la population. On se souvient des marches des années 60, on se souvient donc de Martin Luther King et tout, donc c'est vraiment se réapproprier le Lincoln Memorial, et ça peut évidemment être interprété comme ayant un impact politique.
À propos
d'une incidence sur la campagne électorale, évidemment.
À propos du budget de l'événement, également dénoncé par les démocrates, Donald Trump a déclaré que le coût serait mineur. Ce sont nos avions, nous avons les pilotes, l'aéroport est juste à côté, on a juste besoin de carburant, les chars et tout le reste sont à nous. C'est ce qu'il avait déclaré avant l'événement. La polémique va-t-elle se poursuivre à ce sujet, selon vous?
Ben évidemment, parce qu'il y a aussi, il faut se souvenir que tout ça se déroule à Washington et qu'il y a le contribuable washingtonien aussi qui contribue. En France, si vous voulez, quand il y a des tanks, des chars et tout, c'est les routes et les rues ont été pavées pour ce genre d'événement. Par contre, à Washington, ce n'est pas le cas. Donc, il a fallu mettre des espèces de plaques donc de fer pour permettre aux chars de passer dessus. Tout cela a un coût et aussi il y a tout un coût administratif aussi pour la ville de Washington, et donc je suppose que la mairie de Washington présentera sa facture.
C'était la professeure Marilyn Sefocle de l'université Howard à Washington. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Justin Twaits, au micro Claire Moragibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end à l'écoute de nos programmes.